Vous allez écouter un message de l'Église Nouvel Espoir à Ottawa, en Ontario, au Canada. Ce message a pour but votre transformation afin de transformer votre famille, votre ville, votre entourage. L'Église Nouvel Espoir, c'est des vies transformées pour transformer.
Amen, amen. Je suis content de vous voir ici. Si vous êtes ici, vous êtes courageux et vous avez la foi. Vous savez, ça a pris beaucoup de foi à Noé pour bâtir l'arche. Pendant toutes ces années, pendant que les gens se moquaient de Noé, Noé a bâti l'arche. De la même manière, ça prend beaucoup de foi pour un chrétien, des fois, pour se rendre à l'église. Mais je sais qu'aujourd'hui, vous êtes ici et vous êtes comme Noé, des vaillants héros. Donnez-vous une main d'applaudissement quand même. Hein? Moi, je vous applaudis. Belle pelletée de neige. Vous avez fait du bon travail ce matin. J'ai encore de la neige chez moi. Vous pouvez venir m'aider aussi, si vous voulez. Je prends les bénévoles. Voir Jésus. Matthieu 20, 29, 34. Nous sommes dans une série incroyable et impossible. Aujourd'hui, nous allons conclure cette série avec ce message qui se situe dans le livre de Matthieu. Matthieu, au chapitre 20, verset 29, et on va jusqu'à 34, c'est des aveugles qui recouvrent la vue. Et nous allons voir ensemble quelles richesses, nombreuses sont les richesses de ce texte pour nous aujourd'hui en 2014. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, nous dit la parole de Dieu, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin. Ils entendirent que Jésus passait et crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent !» Émus de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Prions. Juste avant d'aller dans le texte, j'aimerais qu'on incline nos têtes et qu'on prie. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Seigneur, que ton Saint-Esprit aujourd'hui dirige, que ton Saint-Esprit prépare les cœurs. Seigneur, que ton Saint-Esprit révèle, restaure, guérit, transforme. Et je te demande, Seigneur, d'être la voix derrière ma voix, dans ton nom tout-puissant. Amen. La première chose qu'on voit ici, ce texte se situe dans Matthieu, et nous pouvons retrouver des textes similaires dans Marc 10, 46 à 52, dans Luc 18, 35 à 43. Et il y a quand même une différence dans les témoignages de Marc et dans le témoignage de Luc par rapport à ce texte. Luc dit qu'il y avait, Luc et Marc disent qu'il y en avait juste un aveugle. Et Matthieu parle de deux aveugles. Et quand on regarde les textes aussi, on voit aussi une différence majeure qui est que un d'entre eux dit que c'est comme Jésus s'approchait. Dans Marc, il dit que c'est quand Jésus sortit. Et nous voyons aussi dans Matthieu que Matthieu parle de quand il sortit. Donc, il y a quand même quelques nuances. Mais j'aimerais dire aussi que quand on prend des témoignages, que ce soit en cours, la variété démontre la véracité. Si tout le monde dit la même chose, on croit qu'il y a eu un arrangement en quelque part, qu'il y a des gens qui ont été ensemble, qui sont mis ensemble pour avoir les mêmes témoignages, parce que nous n'avons pas les mêmes perspectives. Alors, ici, ce ne sont pas des contradictions, mais il y a une variété dans les témoignages. Aussi, on est ici, on voit une ville d'à peu près 100 000 habitants, une grosse ville. On a une photo à diapo suivante, Jéricho, Jéricho qui a été rebâti. Et Jéricho, c'est une ville mythique, la ville mythique est tombée. Mais après ça, il y a quelqu'un qui a rebâti Jéricho au prix de ses enfants, de son premier-né. Et Jéricho était une grande ville. Et alors, c'est possible qu'à Jéricho, il y avait plus qu'un aveugle. Pour 100 000 habitants, on dit que dans le Moyen-Orient présentement, pour 5 habitants, il y a un aveugle. Donc, il est très possible qu'on parle de trois histoires aussi ici. Ceci dit, la question que nous voulons étudier aujourd'hui, c'est la question de Jésus. Que voulez-vous que je fasse? Que voulez-vous que je fasse? Et quand j'y pensais cette semaine, pendant mon étude, je disais, mais Jésus, il connaissait les désirs de ces aveugles. Il savait que ces gens étaient aveugles. Pourquoi il leur a posé la question, que voulez-vous que je fasse? Et l'autre chose qu'on voit ici, c'est voir ces hommes qui ont eu du mal à s'approcher de Jésus. Une fois qu'ils s'approchent de lui, Jésus leur pose encore, on dirait que c'est une autre barrière que Jésus met devant eux. Il y a un proverbe danois qui dit « Celui qui a peur de demander est honteux d'apprendre ». Aujourd'hui, nous allons apprendre, nous allons voir la richesse de cette parole que Jésus a donnée dans Matthieu 7, 7, 11, où est-ce qu'il dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous, méchants comme vous l'êtes, Jésus est direct, hein? Si donc vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le demandent? » Nous allons apprendre, nous allons voir que pour voir Jésus, il nous faut demander, frapper, il nous faut chercher, ou demander, chercher et frapper. Alors, allons dans le texte ensemble, Matthieu 20, et trouvons et découvrons ses richesses. La première chose qu'on voit, c'est que demander, chercher, frapper, c'est comprendre qu'avoir quelqu'un, on connaît sa pensée. Et ici, il y a une petite erreur, c'est pas qu'avoir marché quelqu'un, qu'avoir quelqu'un, quand nous voyons quelqu'un, on reconnaît sa pensée. Ces aveugles ont entendu parler de Jésus. Et on sait ici dans le texte, on voit ici dans le texte qu'il y avait du tohu-bohu, il y avait un tapage. Quand Jésus passait dans les lieux, c'est pour ça que je crois que Dieu appelle notre Église à une croissance, parce que quand Jésus est quelque part, les gens, Jésus est magnétique. Jésus attire. Si Jésus vraiment est quelque part, il va y avoir croissance. C'est automatique. Et pensez-y, ces aveugles étaient en dehors de la ville, une ville de 100 000 habitants. Ils étaient en dehors, mais ils avaient entendu parler de Jésus. Alors, il y avait un tapage, il y avait du trafic, et ils arrivèrent à Jéricho. Et quand ils étaient au bord de Jéricho, dans un des textes, on parle de Timée, fils de Bartimée. Ceci dit, quel que soit leur nom, nous savons qu'ils ont entendu parler de Jésus et ils ont voulu le voir. Et voici que ces deux aveugles crient, « Aie pitié de nous, fils de David !» Et nous allons voir, nous voyons à l'écran quelques photos de ces aveugles, leur habillement, tout ce qu'ils avaient autour. Des fois, ils avaient un enfant qui marchait avec eux pour leur permettre de s'asseoir au bord de la route. Et pourquoi ils étaient assis au bord de la route? Ben, c'est assez simple. Nos mendiants des temps modernes en 2014 se tiennent dans les intersections. Pourquoi? Parce que c'est là que se trouve le trafic, c'est là qu'il y a des gens qui passent, c'est là que quand on voit un beau véhicule, surtout si vous avez un beau véhicule propre, vous allez voir, les mendiants vont tout de suite venir vers vous. Pourquoi? Parce qu'ils savent que quelque part, vous avez peut-être du bon change. Vous avez peut-être des sous. Et on s'approche, parce qu'il faut se mettre dans le trafic pour recevoir quelque chose. Et c'est pour cela qu'ils étaient aux abords de la route, premièrement. Et la première parole que Dieu m'a donnée ici, c'est « Ne te décourage pas ». Si tu as parlé de l'Évangile à un frère ou à une sœur, à quelqu'un, à un ami, et il ne vient pas encore dans l'assemblée, ne te décourage pas. Parce que ces disciples, ces aveugles-là, je m'excuse, ils avaient entendu parler. Ils avaient entendu parler de Jésus. Ils n'étaient pas encore sur le chemin, ils n'étaient pas encore sur la route de Jésus. Ceci dit, ils avaient entendu parler. C'est comme plusieurs d'entre nous ici, avant de venir à Christ, quelqu'un vous a parlé de Christ. Quelqu'un, et peut-être vous avez pris ça de manière sceptique, peut-être que vous en êtes peut-être moqué, peut-être même vous êtes ici ce matin et quelqu'un vous en a parlé et c'est une de vos premières fois et vous dites, mais qu'est-ce qui m'attend sur cette route? Il y avait du tapage, il y avait du bruit. Et je suis content qu'il y avait du tapage, parce que ceci me dit qu'une église, ça doit être en vie. Une église, il doit y avoir des enfants, il doit y avoir une louange vivante. Vous savez, une église doit être un lieu où est-ce que les gens sont en vie. Parce que les gens en vie, ça attire. Sur cette route, il y avait des gens en vie. Il y avait un mouvement. Il y avait sur la route, dans ce temps-là, il n'y avait pas encore des belles voitures comme des Bentley ou des Mercedes. Il y avait des chameaux. Hey, vous voulez acheter un chameau bientôt, là, ça serait bon de se promener en chameau à Ottawa. Il y avait un chameau, il y avait des chevaux, il y avait des ânes. Il y avait des gens qui marchaient. Maintenant, aujourd'hui, on parle de pollution. Mais dans ce sens-là, ils parlaient de pollution, mais dans un sens différent. Parce qu'un chameau, ça vient avec ce que le chameau fait sur la route. Alors, sur la route, il y avait du chameau. Et ceci me dit que même la maison de Dieu, même le lieu où est-ce que... Parce que Jésus marchait sur cette route, même l'Église, des fois, va avoir des chameaux, des ânes, et aussi, il va y avoir dans l'Église de Dieu des personnes qui sont propres, qui sont bien habillées, il y a de tout dans l'Église. L'Église est ouverte à tout le monde. L'Église est un hôpital. Et tu ne peux pas aller dans la route et dire, pourquoi tu es là, toi? Pourquoi, chameau, tu viens sur la route? Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que la route était pratiquée par tout le monde. Est-ce que le Saint-Esprit voulait juste nous apprendre qu'être assis au bord de la route était logique pour ces mendiants? Ou le Saint-Esprit voulait nous apprendre plus que ça? Moi, je vous propose ce matin que le Saint-Esprit voulait nous apprendre beaucoup plus que ça. Le Saint-Esprit voulait nous enseigner une profondeur. Et cette profondeur que le Saint-Esprit voulait nous enseigner, elle voulait nous apprendre c'est quoi être coincé. C'est quoi? Je ne sais pas pour vous si vous avez déjà été coincé dans la vie. Vous savez, si vous avez déjà été coincé, pour moi, j'ai déjà été coincé. Tu es assis, puis tu vois tout le monde passer. On dirait que tout le monde, leur vie paraît bien. Tu es le seul dont la vie semble avoir des tempêtes. Tu es coincé, peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes ici, tu es coincé. C'est, tu sais, quand tout le monde, le service finit, tout le monde ici prend son véhicule, puis toi, tu n'as pas de véhicule encore, puis tu vois tous les véhicules passer. Tu es coincé. Je ne sais pas pour vous, moi, peut-être que ça ne vous est pas encore arrivé, là, mais moi, ça m'est déjà arrivé d'être coincé. Tu es coincé, tout le monde a des bonnes nouvelles. Un jeune vient juste d'avoir une job, une promotion. Puis toi, ça fait 3 mois que tu cherches à avoir une bonne job, puis tu n'as pas de job. Tu es coincé. C'est quoi être coincé? Ces aveugles-là étaient coincés. C'est une chose d'être sur la route, mais c'est une autre chose d'être coincé. Et quand tu es coincé, t'as tes habits, t'as tout ce qui t'appartient avec toi, puis tout ce que tu vois, tout ce qui t'appartient paraît plus laid que ce que les autres ont. Tu es coincé. Tu sais, ce qui est intéressant avec quand on est coincé, c'est qu'une chose peut nous coincer. On peut tout avoir. Ces gens-là, ces deux aveugles, ils avaient leurs oreilles. Ils pouvaient parler. Ils avaient des jambes. Mais ils ne pouvaient pas voir. C'est quand même une bonne raison d'être coincé, hein? Mais des fois, c'est ça aussi pour nous. Des fois, tu as une maison, mais tu n'as pas de voiture. Tu as de la nourriture ou tu as des enfants, mais ton mari vient de te quitter. Ou tu as un divorce que tu as vécu il y a 8 ans, puis ça te coince. Tu restes coincé. Ces deux aveugles étaient coincés. Et quand tout le monde passe avec leur bénédiction, je pense que le Saint-Esprit veut nous révéler. Le Saint-Esprit veut nous révéler comment une personne coincée doit recevoir ce qui est divin afin de rentrer dans la route. Ceci dit, pour être dans la route, il faut être dans la voiture de la foi. Je ne peux pas aller ici sur Inès sans voiture puis dire je vais prendre une marche. Je vais avoir des défis. Pour être dans la route, il fallait être équipé de la voiture de la foi. Peut-être que tu te poses la question, pasteur, tu sais, moi, j'ai été coincé depuis quelques années, puis je ne vois pas. Je ne vois pas la porte de sortie, je ne vois pas la lumière, je ne vois pas le bout du tunnel. Je me sens, peut-être que présentement, tu es en train de te ressentir comme ces aveugles au coin de la rue. puis qui était là, dans le bord de la route, puis qui voyait tout passer devant eux. J'aimerais te dire ce matin qu'il y a un espoir. Quelqu'un qui m'a posé la question il y a quelques mois, dit « Pasteur, quelqu'un qui venait ici, pasteur, tu sais qu'est-ce qui se passe dans la vie de tel, puis tu sais qu'est-ce qui se passe dans la vie de tel. » J'ai dû parler à cette personne en privé, puis je le dis parce que ça va équiper l'Église par rapport à la vision de l'Église. Quelqu'un de coincé vient avec un arrière-plan. Quelqu'un de coincé vient avec un bagage. Et moi, en tant que pasteur, nous, en tant qu'Église, notre travail, ce n'est pas de savoir toute votre vie privée. Notre travail, c'est de vous équiper par la parole de Dieu. Et ceci se présente dans 2 Timothée 3, 14, 17. Ici, je trouve que c'est important parce que Jésus comprenait sa description de tâche. Et je crois, comme Église, il est important que nous, enfants de Dieu, si on veut que la personne qui soit coincée, si on voit cette personne coincée, si on veut la sortir de son monde, de son joug, il nous faut comprendre ceci. Dans 2 Timothée 3, 14, 17, il est dit « Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris. » Et ce que tu as appris, ce n'est pas ce que tu as appris des autres. Ce n'est pas les histoires, ce n'est pas le commérage. C'est la parole de Dieu. Tiens ferme dans ce que tu as appris de la parole de Dieu. Il nous faut arrêter le « tu sais, pasteur, tu sais, frère, lui ». Il nous faut arrêter. Si nous voulons que les gens coincés, nous allons voir comment les gens coincés sortent et rentrent dans la route, nous allons le voir. Et il nous faut tenir ferme, la première des choses. Tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. De qui il a appris? De Paul. Paul l'a appris de qui? De Jésus, lui-même. Nous l'apprenons semaine après semaine, mercredi après mercredi, nous venons, nous sommes infusés de la parole de Dieu. Pourquoi? Prends un temps dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous voulons être certains de ce que nous avons appris. Depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, pour corriger, instruire dans la justice. Voici mon travail. Voici ton travail en tant que chrétien. Enseigner. Enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Voici à quoi on est appelé, Église de Dieu. Voici à quoi on est appelé, Nouvel Espoir. Enseigner, enseigner, convaincre, corriger dans la justice de Dieu. Et je crois... Cette personne qui était coincée, ces deux aveugles, ils savaient qu'ils étaient aveugles. Ils savaient. Des fois, on vient à une personne aveugle, on dit, « Ah, tu sais, tu es aveugle. Hein? » C'est comme si on lui apprend quelque chose de nouveau. Il est aveugle, il sait qu'il est aveugle. Il connaît sa circonstance. Et Dieu, le Père en nous, veut nous montrer afin qu'on décoince la personne. On a besoin de trouver la méthode du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui l'a emmené là? Ce dont la personne a besoin. Seigneur, donne-moi de donner des coups de main et moins de coups de pied aux gens. Parce que l'Église est une route. Et Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Quand Jonas s'est retrouvé sur la montagne, en dessous de sa plante, qu'est-ce qui est arrivé? Sa plante a séché et Jonas était fâché. Il a dit, « Pourquoi ma plante a séché? » Et Dieu lui a dit, « Jonas, tu as plus de compassion pour ta plante que pour les gens. » Dieu lui a dit, « Regarde, la compassion que tu as pour ta plante, moi j'ai ça pour Ninive. » Et aujourd'hui, Dieu nous dit, que la compassion que moi j'ai pour mes hobbies, la compassion que j'ai pour les choses que j'aime, la compassion que j'ai pour ma famille, Dieu a cette compassion pour Ottawa. Dieu a cette compassion pour Gatineau. Dieu a cette compassion pour Embrun. Dieu a cette compassion pour la francophonie. Dieu dit, c'est bien de voir des grandes églises anglophones, mais Dieu dit, il est temps que les francophones aient des grandes choses. Analyse, regarde, analyse ta situation. Peut-être que tu es coincé, tu es bloqué, tu es immobilisé, tu es planté. Il faut beaucoup de patience pour aider quelqu'un de coincé. Quand on est coincé, quand j'ai été coincé, il y a bien des gens qui ont été patients avec moi. Il faut de la patience. quand on est coincé, on est vraiment coincé. On ne voit pas de lumière au bout du tunnel. On ne voit pas qu'est-ce que Dieu peut faire. Et Dieu nous appelle à être un ministère chrétien. Le premier ministère du chrétien, c'est la patience. Sois patient. Sois patient. La patience et la persévérance, c'est la revanche des moins doués. Et si peut-être Dieu t'a moins équipé que les autres, puis tu vois tout le monde qui passe sur la route, on dirait qu'il passe avec des nouvelles choses et tout ça. Sois patient. Sois persévérant. T'inquiète pas. Tu auras ton tour à toi aussi. Les deux aveugles sont en train de mendier. En 15 ans de ministère, je ne cesse de découvrir des agendas cachés. Je ne cesse d'être émerveillé par les agendas cachés. Et très souvent, on peut même venir dans la présence de Dieu. Et Dieu m'a donné ce message, ce n'est pas un message flatteur, mais Dieu m'a donné un message qui va purifier son Église, qui va vous équiper afin que nous puissions préparer les filets. Si nous voulons que des gens viennent ici, si nous voulons attirer des gens autour de nous, il faut que nous abandonnions le moi. Et très souvent, on peut même venir dans l'Église, mais avec nos agendas. Pasteur, tu sais, si je vends des montres, pasteur, si tu parles de mes montres publiquement, pasteur, je vais te donner une horloge. Wow. C'est pas ça mon ministère. Pasteur, fais ma volonté. Pasteur, pourquoi tu vois pas ça comme moi? Non. Il nous faut être dans la parole de Dieu, immergé par la parole de Dieu. Et des fois, on vient à Christ pour des connexions d'affaires. Certains viennent à Christ pour trouver un mari. D'autres, et j'ai entendu des histoires comme ça, viennent dans l'Église de Dieu pour trouver des femmes. Et Dieu veut te dire aujourd'hui que sur la route, il y a des chameaux, il y a des ânes, et il y a du bon monde. Mais c'est sur la route que Jésus se trouve. C'est sur la route que Jésus se trouve. Notre travail n'est pas de détecter qui est sur la route. Mon travail en tant que pasteur n'est pas de détecter qui est sur la route. Mon travail, c'est d'être connecté sur le rocher, parce que si je suis connecté sur le rocher, le rocher lui-même détecte. Le rocher peut voir, le rocher me protège. Le rocher, c'est pour ça que, quel que soit le plan qu'il y a contre toi, j'aimerais te dire que Dieu te protège. Dieu conduit tes voies. Tout allait bien, peut-être pour toi. Peut-être qu'un de ces aveugles n'est pas né aveugle. Nulle part on dit qu'il est né aveugle, ils sont aveugles nés. Peut-être qu'il a commencé, il voyait en quelque part dans sa vie, il a perdu la vue, il a perdu toutes ses capacités de voir. Et peut-être dans ta vie, tu as eu un travail extraordinaire. Tout allait bien pour toi. Et tout à coup, c'est comme si on t'a frappé à l'âge. Et ta vie s'est arrêtée. Tu étais marié, tu avais une belle vie. On regardait ta vie comme si c'était Hollywood. Et aujourd'hui, tu as tout perdu. C'est ça, être coincé. Être coincé, c'est comprendre cette parole qui se trouve dans les psaumes. Que fera le juste quand les fondements sont ébranlés? Des fois, les fondements de la vie sont ébranlés. Qu'est-ce qui arrive quand tu es coincé? Quand tu es assis? Peut-être que tu viens d'arriver ici, pour certains des nouveaux arrivants, tu viens d'arriver et tu avais une belle vie dans ton pays. Et tu arrives et tu es coincé. Tu dois tout recommencer à zéro. Coincé. Ils pouvaient entendre. Ils pouvaient marcher, mais ils ne pouvaient pas voir. Et Dieu va t'exposer à sa puissance. Dieu veut t'exposer à sa puissance. Mais j'aimerais te dire qu'il y a quelque chose qui manque à chacune des personnes qui est ici ce matin. Ce n'est pas parce que les gens sont sur la route qu'ils ont tout. Et ce qui est très important pour nous, de nous rappeler, quel que soit ce qui me manque, il manque quelque chose à tout le monde qui m'entoure. Moi, je n'ai pas tout, mais ceux qui sont autour de moi, si je suis réaliste et si j'écoute leur histoire, c'est pour ça que j'aime aider, j'aime entendre, j'aime prier pour les gens. Pourquoi? Parce qu'en le faisant, je dis toujours aux gens à qui je tends la main, je dis, c'est toi qui m'aides. Il dit, mais comment tu m'aides? Je dis, parce qu'en t'aidant, je découvre des choses en moi que je dois travailler. En t'aidant, je découvre que je suis égoïste. En t'aidant, je découvre que j'ai besoin d'avoir plus de gratitude envers Dieu. En t'aidant, je découvre que ma vie ou les choses dans ma vie que je considère comme minimes sont grandes. Vous savez, il y a dans le monde présentement, il y a eu un sondage dans le monde et dans certains pays, il y a des gens de l'UNICEF qui sont allés dans certains pays sous-développés et qui ont dit, vous savez, il y a des gens, vous savez, ils vont chez eux, ils vont dans la cuisine, puis ils ouvrent, il y a de l'eau. Ces gens dans les villages, et c'est une grande majorité de la planète Terre, on parle d'à peu près 79% des gens dans la planète qui n'ont pas de l'eau courante à la maison. Ils sont riches. Ils ont de l'eau à la maison. Waouh! En plus de ça, en plus d'avoir de l'eau à la maison, ils ouvrent quelque chose de froid où est-ce qu'ils ont toute leur nourriture. Waouh! Comment ça se fait? En plus de ça, quand ils travaillent, ils n'ont même pas à aller chercher leur chèque. Ça rentre automatiquement. Ça rentre automatiquement, puis ils peuvent le vérifier au travers d'une machine. Wow! Des fois, quand on est sur la route, et je le dis pourquoi, parce que des fois, on ne considère pas tout ce que nous avons. Si vous êtes ici en Amérique du Nord, vous êtes parmi les plus riches sur la planète Terre, quel que soit votre salaire. Quel que soit votre salaire. Et Dieu veut mettre dans notre cœur de considérer, d'avoir cette grâce, cette gratitude devant Lui et ses aveugles étaient là. Ils étaient assis, ils étaient coincés, mais ils avaient des jambes et ils savaient qu'ils avaient des oreilles pour entendre que Jésus était là. Ils se disent, oui, je ne vois pas, mais j'entends encore. Je ne vois pas, mais je peux marcher. Je suis capable de marcher. Le Saint-Esprit m'a dit aussi de vous dire que la maison de Dieu, c'est un arche. Ce n'est pas un bateau de croisière. Dans l'arche, il y avait des animaux. Tu n'étais pas dans l'arche pour le confort. Tu étais dans l'arche pour sauver ta vie. Tu n'es pas dans l'Église pour le confort. Tu es dans l'Église parce que tu veux chercher Dieu, tu veux chercher le salut, tu veux chercher le réconfort. Tu ne cherches pas à être confortable, tu cherches le salut. Tu cherches le salut. Dans l'arche, c'est le salut. Pendant qu'il y a des tempêtes à l'extérieur, tu sais qu'ici, tu es en sécurité. Tu ne veux pas être à l'extérieur. Pourquoi? Parce que dans la maison de Dieu, tu es en sécurité. Et les mendiants ont compris cela. C'est très dangereux pour un mendiant de se mettre sur la route. Imaginez-vous. Je ne sais pas à quelle vitesse allaient les chameaux et les ânes. Mais s'exposer à ce danger. Ils pouvaient marcher aussi sur du chameau. Il pouvait être repoussé par certaines personnes, fouetté par certaines personnes. Nous savons que l'armée romaine passait sur ce terrain et nous savons que les soldats romains n'étaient pas très patients. Essayez de vous placer devant une voiture de police pendant que les sapins de lumière sont allumés. Vous allez avoir certains défis. Alors, c'est ça l'armée. Quand l'armée est en train de travailler, on bouge. Mais quand tu ne vois pas, c'est très difficile de bouger. Il y avait un défi, ces mendiants. Ils étaient handicapés. Mais vous savez, ils étaient handicapés, ils avaient leur verre. Et le problème quand on est coincé, c'est que des fois, on devient mendiant. Et le défi à devenir mendiant, moi j'ai toujours dit, notre église n'est pas une petite église, c'est une église en croissance, c'est une église qui grandit. Et je proclame cela, je proclame les choses que je ne vois pas comme elles sont. Pourquoi? Parce que quand tu as la mentalité d'un mendiant, ben tu vas rester là. La mentalité du mendiant, c'est ça qu'il garde à être mendiant. Et c'est pour cela que quand tu as ton pot et tu es toujours là à demander, et tu cherches, le mendiant, il attend un sauveur. Il espère un sauveur. Il est là, il intercède. Envoie-moi le sauveur. Envoie-moi le sauveur. Celui qui comprend la mentalité de la foi, il devient comme Moïse. Il réalise, Dieu m'a placé ici. Pourquoi Dieu m'a placé ici? Pourquoi je suis né dans la maison du Pharaon? Il n'y a pas un ange qui a parlé à Moïse. Moïse a réalisé. Moïse, en quelque part, quand il est allé défendre ses frères, c'est pourquoi? Parce qu'il a dit, Dieu m'a placé ici pour mes frères. Dieu a fait de moi le fils de Pharaon afin que j'aide le peuple d'Israël. Pourquoi Dieu t'a placé ici? Pourquoi Dieu t'a emmené ici? Le sais-tu? Et ces aveugles savaient le moment, ils avaient compris le kairos de Dieu. Ils savaient qu'ils étaient assis au bord de cette route, non pas pour l'argent. Ils savaient que ce jour-là, leur shift était fini. Ils savaient que si je trouvais Jésus, si je le vois, je vais voir. Est-ce que quand tu vas à l'église, tu crois ça? Je m'en vais rencontrer Jésus, je vais voir Jésus. Je vais voir Jésus pour ma vie. Je vais voir Jésus pour mon défi. Je vais voir Jésus pour ma famille. Je vais voir Jésus pour mon emploi. Je vais voir Jésus pour tout ce dont j'ai besoin. Ou c'est juste comme certaines personnes qui sont au bord de la route. Jésus, si tu as des miettes pour moi, je vais en prendre. Si tu as quelques sous, si tu as du change, je vais prendre ton change. Je sais que ça fonctionne pour les autres qui sont sur la route. Mais pour moi, ça ne va pas fonctionner. Ils auraient pu avoir cette attitude. Ils avaient toutes les raisons d'avoir cette attitude. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Et c'est pour cela que l'Église Nouvel Espoir décide ensemble, nous décidons de refuser de vous garder dans une mentalité de mendiant. Nous ne sommes pas des mendiants. Je refuse. Je refuse pourquoi? Je refuse parce que je crois que notre Dieu est assez grand pour nous faire grandir. Notre Dieu est assez grand pour nous bénir. Notre Dieu est assez grand pour faire de nous des personnes qui ont commencé avec peu, avec des petits débuts, des débuts méprisables, peut-être, mais nous rendre grands. C'est le Dieu de la grandeur commence avec de petites choses. Le Dieu de la grandeur vient chercher des gens qu'on n'aurait même pas imaginé. Tous les statisticiens du monde auraient dit non, c'est pas possible. Mais avec le Dieu de la grandeur, c'est possible avec toi. Et si tu crois, tu peux dire amen. Hein? Avez-vous déjà été coincé comme ces hommes? L'aveugle crie, il criait, « Aie pitié de nous! Aie pitié de nous, Seigneur! Aie pitié de nous! » Supplication. Le danger quand on est coincé, c'est de penser qu'on ne vaut plus rien. Mais ces gens, ces deux aveugles ont dit non. Il y a encore ma voix. J'ai encore ma voix. Aie pitié de nous! Aie pitié de nous! Il y a cette histoire qu'on raconte d'Agostino Antonio qui avait pris une pierre. Lui, il était un artiste. Il a pris une pierre puis il essayait de forger avec le marbre. Agostino essayait de forger et il dit non, cette pierre n'est pas bonne à rien. Ce marbre n'est pas bon à rien. Qu'est-ce qu'il a fait avec le marbre? Il l'a donné à un autre artiste. Cet autre artiste a essayé de faire de quoi avec. Il dit, c'est pas bon. C'est pas bon, jetons-le. Et ils ont mis dans un lieu où est-ce que les artistes mettaient tout ce qui était de mauvais, tout ce qui était déchet par rapport à leur travail. Et là, un jour, Michelangelo, vous connaissez Michelangelo? Michelangelo a dit, ah, tu sais, tout le monde n'a pas été capable de faire de quoi avec ça. Ça, c'est la mentalité de la foi. Tout le monde n'a pas pu là-bas. Moi, je vais aller. Et je vais faire quelque chose avec ça. Et Michelangelo a pris cette pièce et il a fait avec cela David. David qui est à la diapo, parce que je pense qu'on est arrivé un peu plus loin que diapo 13 pour notre personne. En tout cas, il a fait représentation de David. Et dans cette représentation, on voit David, et c'est la diapo 12 si tu as des défis en arrière. Parfait, merci. Et cette représentation a été faite avec du marbre qui était jeté. Il était jeté comme ça. Hein? Et votre déchet, ce que vous rejetez, quelqu'un d'autre va le prendre comme richesse. Plusieurs personnes qui m'ont dit, ah, le lieu, vous savez, où est-ce que tu es placé, l'église Nouvel Espoir, vous êtes placé à côté d'une autre église. Vous savez, il y a eu des défis à l'église, à cette église, ce bâtiment. Tout ça. Moi, j'ai dit aux gens, vous savez quoi, mon Dieu est plus grand que tout ce qui est arrivé ici. Mon Dieu est plus grand que les scénarios qui sont arrivés ici. Mon Dieu m'a donné une vision. Il m'a dit, reste, sois stable. Enracine-toi dans la parole. Enracine-toi, prie, occupe-toi des gens et tu verras. Non seulement que je vais te donner cette place, cette maison pleine, mais je vais te donner encore plus que cela. De ce lieu vont sortir des multitudes. De ce lieu vont sortir des chants. De ce lieu vont sortir des prédicateurs. De ce lieu vont sortir des hommes de foi. Et j'aimerais te dire que ça va arriver. Je le dis aujourd'hui publiquement. Pourquoi? Parce que Dieu m'a mis à cœur, écoute, la parole que je t'ai donnée afin de fortifier la foi de mes enfants, quand ils le verront, ils le croiront. Si tu ne crois pas encore, tu croiras. T'inquiète pas. Tu vas croire. Amen. Tu vas croire. J'aime cela parce que mon Dieu est un Dieu qui emmène les incrédules à être étonnés, à être ébahis devant sa présence. Ou est-ce qu'on t'a dit que c'était impossible? Peut-être ces aveugles, on leur avait dit, « Ah, vous allez voir Jésus, ah, Jésus. Jésus, les Galiléens, il va venir t'aider. Pourquoi? Toi, tu es de Jéricho. Oh, pff, faut pas y aller. » Non, moi, je vais y aller. Je vais aller voir. Je vois pas. Je vais y aller aujourd'hui. Jésus, peut-être, tu crois que Jésus ne répond pas, mais Jésus répondra pour moi. 1 Jean 5, 14 nous dit, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Quand je demande quelque chose selon sa volonté, il m'écoute. Dans Jean 16, 24, il dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Pourquoi on demande? Afin d'avoir une joie parfaite. Tu as perdu la joie parce que tu ne demandes plus. Demande au Seigneur. Je te garantis, il y aura un sourire qui va sortir. Tout à coup, même si tu as été baptisé dans l'eau de citron, alléluia, il y a quelque chose qui va t'arriver. Demandez. Demandez, cherchez, frappez. C'est comprendre que pour voir la lumière de Dieu, il nous faut éteindre notre petite chandelle. Il fallait, pour ces aveugles, éteindre ce qui leur restait de fierté. Quand tu es coincé, tout ce qui te reste, c'est ce que tu as. Ces aveugles, tout ce qui leur restait, c'est d'être assis là avec leur peau, puis d'avoir peut-être le peu de linge qu'ils avaient. Peut-être qu'ils pouvaient le salir en allant dans la route. Ils peuvent être rejetés par certaines personnes. On va voir qu'il y a certains gens qui leur ont dit, « Qu'est-ce que vous faites à qui est Jésus? Poussez-vous! » Perdre la dignité. Quand tu demandes à quelqu'un, quand tu demandes des conseils, des fois, des gens vont te rejeter. Des fois, il y a des gens qui vont même trouver tes questions. Même on dit qu'il n'y a pas de questions qui ne valent pas la peine, mais pour certaines personnes, dès que tu poses une question, tu sens tout de suite que ça ne vaut pas la peine de lui poser la question. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu t'appelle à être comme un enfant. Pose-là la question. Pose la question. Parce qu'en posant la question, tu vas savoir. Pour ça, les enfants apprennent très vite, même quand ils voyagent dans un autre pays. Va avec ton enfant en Allemagne, en 7 mois, il va parler allemand. Tu vas en Chine, il va parler le chinois, mais toi, peut-être, tu vas avoir des défis. Pourquoi? Parce qu'un adulte, on a plus peur. Si je dis ceci et je le dis mal. Et Dieu nous appelle à oublier notre lumière. Parce que notre lumière, notre étincelle est tellement petite par rapport à sa lumière à lui. Il te faut éteindre ta chandelle. Et demander de l'aide, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société dans laquelle un simple coup de main, ça ressemble à demander de l'argent. C'est comme si on retournait vers nos parents et on perdait notre indépendance. On est dans une société qui nous dit, il te faut être indépendant. Alors, la minute que tu trouves ton indépendance, demander de l'aide, ça t'humilie. Pourquoi je vais demander de l'aide? Peut-être que vous avez déjà entendu ces paroles de Jean de La Fontaine, « Aide-toi et le ciel t'aidera. » Et nous, dans ces temps modernes, nous voyons et nous souffrons par quoi? Par fierté. Tu ne dois compter que sur toi-même. Tu dois compter sur ta gloire, sur tes accomplissements. Et quand tes fantasmes de toute puissance se relèvent et se démontrent être faux, ou quand ton rêve ou ton fantasme se brise devant toi, tout à coup, tu es déprimé, tu es anxieux. Pourquoi? Parce que ta fierté vient d'avoir eu un coup. Et Dieu nous appelle à rester humbles. Dieu nous appelle à vivre comme ces aveugles. Dieu nous appelle. Toutes les personnes que Jésus a touchées en quelque part ont réalisé ce qui manquait dans leur vie. Ils ont réalisé leurs limites. Ils ont réalisé, même Zachée, Zachée, qui était un homme, oui, certes, on dit qu'il volait les gens, mais Zachée s'est placé sur un arbre, sur un sycomore. Il s'est humilié devant Dieu et Dieu est allé manger chez lui. On ne veut pas demander parce que c'est se sentir redevable. S'il me prête, ben je vais lui devoir. À vie. Je vais toujours devoir lui donner de quoi. Il y a quelque chose, il y a toujours ce sentiment qu'il va me le rappeler. Il va me le rappeler. Non, je peux être capable seul. Le défi, c'est que quand tu essaies de t'en sortir tout seul, si tu es vraiment coincé, tu creuses un plus grand trou. Et le plus creux est ton trou, le plus creux sera ta dépression. Et Dieu aujourd'hui te dit, écoute, si tu es coincé, il y a de l'aide. Il y a de l'aide. Il y a un lieu où est-ce que tu peux dire, écoute, j'ai besoin d'aide. Oublie ta fierté. Oublie ce que tu penses que les gens croient voir. Oublie cela. Je suis ton Dieu. Et l'Église de Dieu ici, l'Église Nouvel Espoir est un lieu dans lequel nous pouvons dire de manière simple, nous pouvons dire à un frère, dire à une sœur, partager ensemble et dire, écoute, j'ai besoin de l'aide. J'ai besoin de l'aide. Si l'Église n'est pas ce lieu, où allons-nous trouver ce lieu? On m'a raconté l'histoire de cette grenouille sourde qui est tombée dans un trou. Et elle est tombée avec d'autres grenouilles. Et là, elle regardait les autres grenouilles en haut. Il y en avait qui étaient restées en dehors. Et il y en avait au moins une dizaine avec elle dans le trou. Et elle regardait les autres grenouilles. Et les autres grenouilles en haut qui disaient, « Sautez pas, ça ne sert à rien de sauter. Vous allez mourir. Vous êtes morts. » Là, il y en a d'autres qui sont sortis. Vous voyez les squelettes qui sont autour. C'est d'autres grenouilles qui sont mortes là-dedans. Et pendant ce temps-là, les grenouilles qui étaient avec cette grenouille qui était sourde ont arrêté de sauter. Mais la grenouille sourde continuait de sauter. Elle continuait de sauter. Les autres sont mortes et la grenouille sourde est sortie. Elle dit, mais pourquoi tu n'as pas arrêté? On lui a posé la question avec des signes de grenouille. Hein? Parce qu'il faut faire des signes pour parler à une grenouille sourde, il faut parler en signes. Et là, la grenouille a répondu, mais moi, je ne vous entendais pas. Moi, je pensais que vous étiez en train de me motiver. Dis, vas-y, lâche pas, arrête pas, sors de là. Ah, oh, c'est ça que vous me disiez. Ah, oh, mais je suis sorti. Parfois, il faut être sourd. Parfois, Dieu nous appelle à être sourd aux paroles de mort. Paroles de mort dans ta vie. Sois sourd à ça et crie plus fort. Comme ces aveugles, ils ont crié plus fort quand on les a arrêtés. Ils ont dit, aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié plus fort. Tu veux m'arrêter? Tu veux vraiment m'arrêter? OK, tu me donnes un coup de poing. Je vais sortir mon bâton. Là. Viens, on va emmener la force. Parce que Dieu, le royaume des cieux appartient aux violents. Non, allez pas être violent à la maison. Là. Vous comprenez ce que je veux dire par là. Crie plus fort. Dans la circonstance, demander, chercher et frapper, c'est comprendre que voir me coûte d'ouvrir les yeux à tout ce que je ne voudrais pas voir. Jésus va ouvrir les yeux de ces aveugles. Jésus s'arrête et leur pose la question, « Que voulez-vous que je fasse? » Moi, je crois qu'il y a plusieurs personnes qui arrivent dans la présence de Dieu et Dieu leur pose la question, « Que voulez-vous que je fasse? » Et là, ils sont insultés. Pourquoi qu'ils me posent la question? Ça fait 10 ans que je suis coincé là. Pourquoi qu'il s'attend que moi, je vais venir vers lui puis je vais lui expliquer mon défi? Pourquoi? Pourquoi il n'a pas deviné lui-même? Il est Dieu. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Et Dieu veut te dire qu'il attend que tu parles. Parce qu'il est Dieu. Ah, il n'y a pas grand amen à ça. Hein? Amen. Dieu te dit, parle. Amen. Dieu a créé en parlant. Toi aussi, tu vas créer en parlant, en dialoguant. Parle. Quel est ton défi? Quel est ton problème? Peut-être c'est une situation dans le foyer. Et des fois, dans le foyer, on peut avoir des situations dans un foyer. Puis tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Tu vis l'enfer, mais l'autre personne ne sait même pas que tu vis l'enfer. Parce que tu ne parles pas. Tu manges tout en dedans. Tu fais comme le chewing-gum. Tu fais des bulles avec, des grosses bulles. Toi, tu vois ta circonstance dans tes bulles. Mais Dieu te dit, parle. Parle. Dialogue. et tu vas voir, il y a un fruit. Peut-être que le problème que tu vois beaucoup plus gros devant toi, devant Jésus, va être beaucoup plus petit. Parce que Jésus, c'est un Dieu qui pète les ballons. Paf! Il n'y en a plus. Notre Dieu est grand comme ça. Et ici, Dieu nous apprend que Dieu n'est pas un substantif, mais Dieu, c'est un verbe. Dieu, c'est une action. Dieu n'est pas une pensée. Dieu n'est pas... Je suis allé voir cette semaine le film de Noé, le nouveau film de Noé qui est sorti, puis je ne vais pas faire de critique, pas rien, mais j'aimerais juste dire que si le Noé du film qui est sorti, c'est le Noé biblique, pour moi, j'aurais dit, bien, le Noé biblique, il aurait tué les deux mouches. Et il n'y en aurait plus eu de mouches. Et ce que j'ai vu dans ce film, c'est qu'on voulait montrer Dieu comme un substantif. Dieu comme une idée. Dieu comme... c'est comme aujourd'hui, certains chrétiens, certaines personnes pensent à Dieu comme quelqu'un qui ne parle pas. Dieu, c'est une personne, elle parle. Dieu parle. Dieu est réel. Dieu n'est pas une philosophie. Dieu n'est pas une énergie. Ah, oh, je sens Dieu. Tu ne sens pas Dieu. Tu sens peut-être autre chose. Dieu n'est pas une énergie. Dans sa présence, tu vas sentir quelque chose. Mais si Dieu te parle, tu vas savoir que Dieu t'a parlé. Et Dieu parle encore en 2014. C'est une réalité. Dieu parle. Le Dieu de la Bible parle. D'ailleurs, dans la Bible, c'est écrit, « Vos dieux ne parlent pas, mais moi, je parle. » La différence entre notre Dieu et le Dieu de notre Dieu et les dieux du monde, c'est que notre Dieu parle. Notre Dieu parle. Et Dieu est un verbe, Dieu est une action et pas un substantif, pas une pensée. Donc, pour servir Dieu, il faut faire des actions. Crois en Dieu, fais une action. Je crois que Dieu peut me guérir, je vais me mettre sur la route. Je crois que Dieu peut travailler mon comportement, je vais commencer à faire des actions afin que mon comportement change. Je crois que Dieu est capable de changer mes finances, je vais aller voir un conseiller en finances qui m'explique comment je peux sortir de mes défis financiers. Je crois que Dieu m'a appelé à la bénédiction et non à la malédiction. Bien, je vais retourner à l'école parce que j'ai besoin de prendre certains cours afin de pouvoir avoir le travail que je veux. Je crois que Dieu peut ouvrir des portes pour moi, devant moi. Je vais me placer dans le trafic. Je crois en Dieu. Croire en Dieu, c'est faire des actions. Je crois que Dieu peut remplir cette église. Bien, je fais des connexions, j'appelle des gens, je sors dehors, j'évangélise parce que je crois en Dieu. J'invite des gens à l'église. Pourquoi? Parce que je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Je peux dire amen n'importe quand. Dieu aime les gens humbles. Et l'humilité pour Dieu, c'est accepter qu'il existe un autre regard que le sien. Reconnaître la différence en l'autre et savoir faire don de soi et faire preuve d'humilité. Ces aveugles étaient humbles. Ils étaient aveugles, mais ils étaient humbles. Et ils voyaient beaucoup plus que des gens qui étaient là, qui avaient leurs yeux. Parce qu'ils n'avaient pas la fierté de dire, écoute, nous, là, notre situation, c'est fini. C'est fini. C'est être orgueilleux. De dire que tu es fini, là, c'est une forme d'orgueil. Parce que tu comptes sur toi-même. Mais Dieu t'appelle à compter sur lui. C'est que, pourquoi c'est fini? Tu sais, en un jour, Dieu te regarde du haut-dessus, tu sais en un jour ce que j'ai fait. En un jour, j'ai sorti 1 million de personnes d'Égypte qui étaient esclaves, sans armée, sans fusil, sans rien, avec un vieillard de 80 ans. Tu sais, c'était quoi mon plan? Dieu te dit, tu sais, c'est quoi mon plan? Mon plan, c'est que j'ai envoyé le vieillard dire, laisse sortir mon peuple. Puis j'ai dit au vieillard, quand je lui ai parlé, je lui ai dit que moi, mon travail, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Ah, wow! Et là, tu regardes Dieu, tu dis, wow! Et le vieillard t'a écouté? Oui, ils m'ont écouté. Puis il est allé, puis il a fait la chose, puis il a vécu 120 ans. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont étudier ça. Est-ce qu'il a vraiment vécu 120 ans? Oui, il a vécu 120 ans. Oui, pourquoi? Parce que la Bible le dit. La Bible le dit. Et moi, je crois que si on retourne à cela, on va voir la puissance de Dieu se manifester dans nos vies. Si on retourne à croire Dieu, à la parole de Dieu, à sa parole et non pas à notre idée, non pas à notre philosophie, non pas à ce que nous pouvons penser de lui, Dieu va changer nos vies. On parle de cet aveugle qui était dans une église pendant que le pasteur anglais, Dr. Phillips Brooks, qui était dans cette église aux États-Unis à Boston, et il remplaçait un de ses amis là-bas dans cette église. On parle de cette histoire qu'après qu'il ait fini de prêcher, il s'est approché de cet aveugle, à la prochaine diapo, s'est approché de cet aveugle et il a dit à l'aveugle, lui ne savait pas que la personne était aveugle parce que bon, il était bien habillé en costard avec des lunettes et tout ça, il était bien dans la salle. Il lui a dit, écoute, je ne connais pas où est-ce qu'est mon hôtel. Est-ce que tu peux me montrer le chemin pour mon hôtel? Il dit, pas de problème. L'aveugle dit, pas de problème. Il dit, je vais te montrer, mais moi, je ne vois pas. Je suis aveugle, mais je connais mon chemin. Alors, le pasteur a dit, non, c'est correct. Je vais trouver mon chemin par moi-même. Dans ce temps-là, le GPS n'existait pas encore. Il dit, non, je vais t'aider. Ne m'empêche pas de faire cela pour toi. Alors, l'aveugle l'a conduit jusqu'à son hôtel, jusqu'à la porte de son hôtel. Et lui a dit, être aveugle, c'est fabuleux. Ça me donne beaucoup de temps de méditation, de prière avec Dieu. Puis je peux rester dans le silence. Il a dit exactement la même chose. Il dit, je suis aveugle, mais j'ai mes oreilles, puis je peux encore parler. Puis je peux voir, j'ai le sens de l'orientation, même si je suis aveugle. Et l'aveugle est parti. Après, il est parti chez lui sans aucun défi, sans aucun problème. Et ce qu'on apprend ici, c'est que au-delà de ta circonstance, il faut apprendre à apprécier les petites choses que tu as. Cet aveugle a apprécié les petites choses qu'il a. Dr. Phillips, en regardant, en écoutant cet aveugle lui parler, il a dit, « Wow! » Il apprécie les richesses qu'il a. Et pour cela, il faut voir, et pas être comme l'autruche qu'on voit à la prochaine diapo, regarder juste le trou, regarder juste les défis que nous pouvons avoir. Pour savoir ce qu'il faut demander, il faut savoir surmonter la douleur du changement. Demander, chercher, frapper, finalement, c'est comprendre qu'il est malaisé de voir le miracle tout seul. On voit ici, ils étaient deux. Et quand tu vois le miracle, quand tu vis le miracle, prochaine diapo, ce n'est pas pour toi tout seul. Et lui dire, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Le terme ici, le terme grec, plachnistéis, veut dire ému de compassion, ému dans ses entrailles, prochaine diapo. Il est guéri aussitôt, Jésus les guérit. Dans Luc 3:11, il est écrit que celui qui a deux chemises partage avec celui qui n'en a pas et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Dans Hébreux 13:16, il est écrit, ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Romains 1:16 nous dit, en effet, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu. Pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, il est égoïste, hein? Voilà un homme passionné, un homme zélé pour Dieu. Paul, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Moi, Paul, je te dis aujourd'hui, du non-juif d'abord, et du juif aussi. Du francophone d'Ottawa, et de l'anglais aussi. On parle de ce militaire, James Kilpatrick, pendant les années de guerre en 1940-1945, qui aidait cette dame qui avait perdu son mari durant la guerre en France. Et tous les jours, il prenait une portion de sa soupe, une portion de qu'est-ce qu'on leur donnait à manger aux militaires, et il lui donnait de quoi. Pendant toutes ces années là-bas en France, et c'est ça qu'il faisait. Et à son retour, cette dame est morte quelques années après son retour et dans son testament, cette dame lui a laissé 50 000 $, la valeur de 50 000 $ américains. Il a semé, il n'a pas semé pour avoir 50 000 $ américains. Dans sa semence, il a reçu 50 000 $ américains et avec cela, on dit que Kilpatrick est allé, il a fait des études en musique et il est devenu un musicien reconnu. Et j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, Dieu recherche des gens qui réalisent que leur bol de soupe est une bénédiction. Des gens qui réalisent que leur voiture est une bénédiction. Des gens qui réalisent que leurs deux chemises sont une bénédiction. Des gens qui réalisent qu'avoir des cheveux encore, c'est une bénédiction. Moi, j'ai peur assez vite. Donc, j'aimerais te dire, des gens qui réalisent cela, c'est futile, qu'est-ce qu'il est en train de dire en avant? Si tu comptes les bienfaits de Dieu dans les petites choses, tu vas voir des grandes choses arriver dans ta vie. Des très grandes choses vont arriver dans ta vie. Et c'est un peu comme prédicateur. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais en tant que prédicateur, qu'est-ce qui est important pour garder, pour marcher, pour garder les voies de Dieu? Et je suis revenu à une chose, c'est les yeux. C'est nos yeux, ce que nous voyons. Il faut toujours voir l'éternité. Quand tu regardes le ciel, il faut voir ta maison dans l'éternité, voir ton logis dans l'éternité, voir que tu n'es pas appelé à vivre ici. Si tu gardes tes yeux vers l'éternité, ça va t'aider. L'autre chose, il faut voir la terre. C'est important de regarder autour de toi puis voir qu'il y a des gens qui vivent des défis beaucoup plus grands que toi aussi et qui ont besoin d'aller vers l'éternité puis d'entendre cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'éternité. Et la troisième chose que Dieu a placée dans mon cœur, c'est de voir le plaisir, de la joie qu'on a quand on sème le royaume. Le royaume est proche. Jésus dira, le royaume est ici. Quand on sème le royaume dans la vie de quelqu'un, il n'y a rien qui peut vous donner plus de joie que de voir la joie dans une vie transformée. La joie dans quelqu'un qui vient à Christ, non seulement à la connaissance, non seulement, ce n'est pas une prière de 2 minutes, Seigneur, je te veux dans mon cœur. C'est super, c'est le commencement de beaucoup de choses, mais beaucoup plus que ça. Quelqu'un qui vient à la connaissance de Dieu, à la connaissance qu'il y a des gens sur terre qui représentent Christ. Il y a des gens sur terre sur lesquels je peux compter. Il y a des gens qui voient comme Christ. En conclusion, j'aimerais te demander de continuer à demander, à chercher et à frapper. Si Jésus a dit demander, puis qu'après il a dit chercher, ça veut dire qu'il y en a qui demandent, puis qui n'ont pas. Et ils doivent chercher. Et si Jésus a dit chercher, et il a ajouté frapper, ça veut dire qu'il y en a qui demandent et qui cherchent. Qui n'ont pas. Et ils ont besoin de frapper. Peut-être tu as demandé et tu es coincé. Tu es comme cette personne, tu es assise, tu es comme ces deux aveugles et tu dis, ah, tout le monde me passe. Tout le monde semble avoir une meilleure vie, meilleure maison, meilleure nouvelle, meilleur instrument de musique, meilleurs enfants. Ils vivent dans les meilleurs quartiers. Moi, j'aurais voulu. Tu es dans la vie de « j'aurais voulu » parce que quelqu'un de coincé est dans le « j'aurais voulu ». Tu es coincé. Et tu regardes toutes ces circonstances et ces circonstances commencent à t'envahir, à te donner de l'anxiété, de la dépression. Ces circonstances commencent à te manger, à te donner une angoisse profonde qui te donne même des idées de mort. Est-ce que vraiment, moi, je vais voir de meilleurs jours? La vie, c'est pour les autres. Moi, je suis passager ici. Mais Dieu veut plus que ça pour toi. Dieu veut que tu réalises que tu n'es pas appelé à rester assis, coincé. Il veut que tu réalises que même ton manteau, tes habits de mendiant. Puis vous savez, je l'aimais mon manteau. Hein? Je vais lui parler comme à mon amoureux. Au revoir, manteau. Ma circonstance ou mes circonstances de vie que je laisse derrière moi avec mon manteau, comme ces aveugles, ils ont dû laisser leur argent, leurs sous. Ils ont dû laisser tout ce qui était à eux, parce qu'en tant qu'aveugle, tu ne marches pas avec toutes tes choses. Ils ont dû laisser leur lit qu'ils avaient au bord. Ils ont dû abandonner certaines choses pour aller vers Jésus.
Tu sais, mais ça, c'est l'addiction que j'aimais. Au moins là, je trouvais le bonheur. Tu sais, ça, c'est le temps que j'avais. Peut-être ici, là, j'avais beaucoup plus de plaisir ici que dans la présence de Dieu. Le temps que j'avais avec mon travail, peut-être je passais beaucoup plus de temps dans mon travail que dans ma relation à la maison. C'est pas toujours des mauvaises choses. Peut-être c'est mes habitudes. Moi, j'ai toujours été content dans mes habitudes. Moi, je suis comme ça. Tu comprends pas, pasteur? Je suis né comme ça. Mon grand-père était comme ça. Mon père est comme ça. Moi, je suis comme ça. Dieu te dit, écoute, enlève ton manteau. Enlève ton manteau, puis laisse-le. Puis dis, écoute, tu dois lui dire merci. Tu dis à ton manteau, merci, tu m'as aidé. Tu m'as aidé à surmonter beaucoup de choses, mais tu sais, Jésus est là. Puis je vais dire, bye-bye. Il y a bien des gens qui vont haïr mon manteau après aujourd'hui. Bye-bye. C'était fort ensemble, mais j'entends la voix de Jésus. J'entends les gens. J'entends le tumulte, le passage, le tapage. Et quand j'entends la voix de Jésus, je crie, « Fils de David, aie pitié de moi! Fils de David, aie pitié de moi! » Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver dans ma circonstance. Je ne vois pas encore. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Je suis repoussé. Il y a des gens autour de moi qui me repoussent, qui me disent, « Non, ça ne va pas t'arriver. Ça ne va pas t'arriver pour toi. Ça peut arriver aux autres, mais pas à toi. » J'avance. Ce qui est plus intéressant, et ça, c'est la partie que j'aime le plus quand je lisais le texte, c'est que Jésus a envoyé les mêmes personnes qui les ont renvoyées. Jésus a dit, va le chercher. Jésus va aller chercher les gens qui t'ont critiqué. Il va dire, va chercher Emmanuel. Tu manques, va chercher. Et les gens qui t'ont fait du mal, c'est les mêmes gens qui vont venir te voir pour te dire, viens, Jésus t'attend. Jésus t'attend. Et il y a ici, au-delà de tout ce qu'on peut penser, au-delà de toute amertume qu'on peut avoir, j'aimerais te dire, il n'y a pas de place d'amertume pour quelqu'un qui est en Christ. Parce que tu comprends quelque chose, tu comprends que ton roi va te restituer, il va donner ta position, il va te redonner la position que tu avais. Et il va prendre des gens qui t'ont fait du mal. Et il va dire, va le chercher. Mais Jésus, tu ne comprends pas, ils sont aveugles, puis ils crient, va le chercher. Mais Jésus, tu ne comprends pas, ils ne sont pas bien habillés pour venir à l'église. Va le chercher. Jésus, tu ne comprends pas sa vie, va le chercher. Et quand Jésus dit, va le chercher, tout à coup, tu as deux gardes-corps, Pierre et Jean sont autour de toi. Et là, on pousse les gens, parce que c'est toi, c'est ton show. C'est ton stage, c'est ta journée et tu t'approches. Et qu'est-ce qui arrive? Jésus te pose la question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et là, pendant un moment, tu oublies même qu'est-ce que tu veux parce que tu étais dans une grande joie. Qu'est-ce que je veux? Je vois les aveugles. Qu'est-ce que je veux? Je veux voir. Je veux voir qu'il te soit fait selon ta foi. Et ils ont vu. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, je ne sais pas quel est le besoin de ta vie. Je ne sais pas quel est le besoin de ton cœur. Mais Jésus veut te faire voir. Veut te faire voir. Alors, si tu es ici ce matin, pendant qu'on va élever nos voix, pendant qu'on va louer le Seigneur, j'aimerais t'appeler ici en avant. Je vais prier pour toi afin que Dieu puisse te faire voir. J'ai prié et j'ai passé le temps dans la présence de Dieu afin que tu vois. Et si ce message a touché ton cœur et il y a des lieux dans ta vie, où est-ce que tu veux voir? Pendant que Hermès va jouer, ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir.
Vous venez d'écouter un message provenant de l'Église Nouvel Espoir située au 2224 rue Innis à Ottawa, au Canada. Notre code postal est le K1B4C4. Vous pouvez accéder gratuitement à nos messages par le biais de notre site web www.eglisenouvelespoir.com. Si vous avez des témoignages de vie transformée au travers de ce ministère, écrivez-nous à transformation@eglisenouvelespoir.com ou vous pouvez nous joindre au 613-909-7274.